تطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبط طيب على حياة الفرحة طقطقتيني طقطمصيتيني زماني لغايب على حياة الفرحة.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre rendez-vous culturel, littéraire, musical. Moi, je lis et avec vous, je partage. Pour le faire, j'ai choisi une façon un peu différente. J'allie les choses traditionnelles et des choses un peu moins courantes, c'est-à-dire que je chronique, j'interviewe les auteurs quand c'est possible. Et puis, j'agrémente mes dires d'une playlist censée vous restituer toutes les émotions vécues, ressenties pendant la lecture. Et puis, comme on est plus de fous, plus on rit, je me suis entourée cette année pour un rock and page plus diversifié. Alors une fois par mois, c'est Bibliomanu qui me rejoint et qui vous propose à la chronique des genres, sa chronique spéciale pour la littérature polar et science-fiction. Une autre fois par mois, c'est Catherine Rochet qui, elle, se charge de vous donner envie d'aller au cinéma. Et enfin, une fois par mois, c'est Mademoiselle Amo qui redéfinit pour vous et avec moi un mot en donnant sa définition et en l'habillant musicalement. Voilà. Aujourd'hui, c'est un numéro un peu spécial que je vous propose. J'ai animé la semaine dernière la rencontre proposée par la librairie Sorams de Montpellier avec l'auteur Virginie Despentes pour son dernier roman qui est une vraie réussite et qui s'intitule Vernon Subutex, qui est le premier tome d'une série qui en comptera trois et qui est sorti chez Grasset en ce début d'année 2015. Eh ben, j'ai décidé de vous restituer cette rencontre. Alors évidemment, on ne pouvait pas tout mettre. J'ai agrémenté la rencontre d'une playlist un peu spéciale cette fois pour Rock and Page. La playlist faite, enfin une toute petite partie de la playlist faite par Virginie Despentes elle-même et qui jalonne l'intégralité de son texte. Alors, pour les amoureux du rock and roll, il n'y a pas mieux que la lecture de Vernon Subutex. Allez, on écoute ça tout de suite.
Bonsoir.
Alors, Vernon Subutex, ça arrive 22 ans après Baise-moi.
Totalement.
Voilà. Vous avez fait de nombreuses choses en ces 22 ans, notamment des romans. Vous avez fait une collaboration en roman graphique, vous avez écrit des essais, vous avez adapté au cinéma certains de vos romans. Vous avez obtenu le prix Renaudot.
Ouais.
Entre-temps, et on en arrive aujourd'hui avec, on va arrêter le côté CV, c'est pas très rigolo, ça y est, c'est fait ça, donc on en arrive à Vernon Subutex, voilà, est-ce que c'est moi qui raconte la petite histoire ou est-ce que c'est vous?
Allez-y.
Ok, ça va être sympa. Alors Vernon Subutex, c'est un disquaire, il faisait partie d'un groupe de rock, il a 45 ans quand on ouvre le roman, il faisait partie d'un groupe de rock quand il avait 20 balais. On sait tous et toutes, même en habitant à Montpellier, surtout en habitant à Montpellier, que les disquaires y ferment. Et en fait, il vivote pendant quelques années avec le RSA, il vend la fin de ses disques, etc. Parmi ses amis, un personnage est important à plusieurs titres. C'est Alex Bleach, c'est le seul du groupe d'Europe qui sera devenu une rock star, enfin une pop star, ça on en discutera un peu plus tard. C'est lui qui, parce qu'il a beaucoup d'argent, paye le loyer de Vernon Subutex et Alex Bleach meurt. Et de cette mort-là, en fait, va découler la déchéance, la chute finalement très rapide de Vernon Subutex. Il va commencer par aller habiter comme ça, un peu à droite et à gauche, chez ses amis, alors, soit du groupe de rock, soit ceux qui étaient ses clients quand il était disquaire. Et puis, il tombe. C'est-à-dire qu'on ferme le premier tome et il est à la rue. Voilà, il est passé de l'autre côté, il est à la rue. Alors, moi, la première question que je voudrais vous poser, c'est comment est-ce qu'il est né ce roman-là dans votre bibliographie ? Est-ce que le point de départ, c'est, OK, on a eu 20 ans, on aimait le rock, on en a 45, toujours à Paris, on faisait du rock à Paris, on est toujours à Paris, et qu'est-ce qu'on est devenu ?
C'est peut-être pas le point de départ. Le point de départ, en fait, c'était la mort de Whitney Houston. Et j'ai pensé à une autre histoire au moment de la mort de Whitney Houston, parce que je me suis intéressée à quelqu'un qui a... elle avait une amie avec qui elle est restée amie toute sa vie. Et ça m'intéressait, ce rapport entre quelqu'un qui se met dans la lumière ou qui trouve la lumière et quelqu'un qui l'est moins, mais qui reste amie quand même pendant une vingtaine d'années et que la personne qui est dans l'ombre n'arrive pas à sauver la personne qui est dans la lumière. Et en fait, très vite, j'ai eu l'idée effectivement d'un ex-disquaire qui allait perdre son appartement, parce que c'est une obsession à moi, et je crois que c'est pas une obsession qui m'est uniquement personnelle. Je pense qu'on est quelques-uns à se demander comment on fera dans 15-20 ans. Et ça, c'est moi, ayant été disquaire dans les années 80, fin des années 80, début des années 90 à Lyon, c'est quelque chose dont j'avais jamais parlé, que j'avais jamais travaillé et qui m'intéresse beaucoup, et notamment savoir qu'est-ce qu'on est tous devenus. Nous qui venions dans ce magasin, c'était un magasin de très spécialisé, donc c'était vraiment du punk, du hardcore, donc des gens qui étaient assez passionnés de musique, et qu'est-ce qu'on est devenus les uns les autres. Ça m'intéressait comme point de départ. Et ça m'intéressait comme point de départ parce que j'avais la sensation autour de moi en ce moment que les gens changeaient d'une façon que je n'attendais pas, notamment politiquement, mais qu'il y avait d'autres changements qui m'intéressaient. Comment est-ce que les uns sont devenus pères de famille ou mères de famille, comment d'autres sont devenus, en fait, ce qu'ils étaient au départ, ça veut dire des gens riches, et d'autres, comment d'autres sont devenus ce qu'ils étaient en fait au départ comme classe sociale, c'est-à-dire des précaires. Et ça m'intéressait qui retourne à son niveau d'origine et qui y échappe, et comment est-ce qu'on change aussi politiquement. C'était tout ça qui me...
On y reviendra. Ça, c'est, ouais. C'est les trois filtres que vous avez posés sur vos personnages. On y reviendra quand on attaquera cette galerie de portraits qui est juste incroyable. J'aimerais qu'on s'attarde quelques minutes sur Vernon Subutex. Alors, ce n'est pas votre premier personnage central, principal, masculin, puisque le premier, c'était, je crois, Bruno dans Teen Spirit. Ouais. Quelque part, il est extrêmement féminin, finalement. En tout cas, dans ce que la société nous renvoie sur ce que c'est d'être une femme. C'est-à-dire qu'il est très passif. Quand il se fait héberger comme ça, on dirait que pour dire merci, finalement, il couche avec la moitié des gens, enfin, quand ce sont des femmes qui l'hébergent. Enfin, on verra plus tard pour la suite, mais... je le trouve très passif, et en même temps, quand j'ai fermé le livre, je me suis dit, si Virginie Despentes avait écrit le même livre en mettant Vernon Subutex, en le faisant femme, la France se serait arrêtée et aurait dit catastrophe, Virginie Despentes, ça devient n'importe quoi, elle écrit un roman sur une femme qui couche avec tout Paris, qui finit SDF.
Ça, en tout cas, l'accueil aurait été super différent. En général. Déjà parce que ça aurait pas été un roman universel sur une critique sociale de grande envergure, ça aurait été l'histoire d'une femme qui couche avec tout le monde, ça aurait été très différent. Alors que là, le fait qu'il couche avec tout le monde, effectivement, ça passe tout seul. Et ça aurait été l'histoire de la déchéance insupportable d'une femme qui se laisse aller, alors que là, bon, bah, c'est comme ça un mec, ça passe. Et moi, je ne l'avais pas pensé en l'écrivant, le roman, mais en voyant comment il est reçu, je me dis, effectivement, c'est quand même plus gratifiant de traiter de personnages masculins.
Alors, si on observe un peu la construction de la narration, en fait, elle est assez complexe. Et en fait, je me suis demandé si c'était une forte interpénétration avec la culture qui est la nôtre désormais, c'est-à-dire celle de la série, ou alors si c'est parce que vous saviez, dès le départ, que vous aviez la liberté d'écrire en plusieurs tomes et que ça vous permettait cette construction.
Non, il y a eu plusieurs choses. Il y a le fait que j'avais le temps d'écrire parce que j'ai eu le Renaudot et donc j'avais beaucoup plus d'argent que d'habitude et je ne me posais pas la question. Non, mais c'est vrai, c'est sérieux. D'habitude, il y a un moment où je me dis, bon, bah, faut le rendre et faire autre chose vite. Et là, non. Donc j'ai écrit jusqu'à ce que ça soit énorme et parce que j'avais le temps et donc je pouvais développer chaque personnage. Je pense que le fait de voir beaucoup de séries m'a influencé effectivement dans cette envie de rentrer dans des personnages secondaires. Et il y a aussi, je pense, m'a influencé énormément le fait de passer beaucoup de temps sur Internet et de justement cette façon qu'on a de zapper d'un profil Facebook à un article, à un autre profil Facebook, à rentrer, enfin, quelque chose comme ça du, qui n'est pas vraiment de l'hypertexte, mais presque de. Et qu'on, je pense que ça me formate, c'est pas conscient. Au moment où je me mets à écrire, je ne me dis pas je vais exploiter cette nouvelle, mais juste, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça nous. Ça formate nos cerveaux petit à petit et cette façon de passer de l'un à l'autre. Et c'est vrai que quelque part, quand je regarde les personnages après coup, je me dis c'est quelque part comme si on rentrait à chaque fois dans leur profil Facebook avec leurs photos de famille, leurs photos d'enfance, qu'est-ce qu'ils aiment comme musique. Et c'était pas conscient avant, mais après coup, je me rends bien compte que j'ai fait une série de profils Facebook, quelque part romancés, rédigés. Mm-hmm. Mais c'est un peu le. Et qu'on passe des uns aux autres, parfois complètement sans aucun rapport, sauf qu'ils sont amis avec. Une autre personne sur qui on déboule, quoi.
Une des choses qui plane aussi sur ce roman-là, c'est le fait de prendre de l'âge. Et ce qui est assez terrible, finalement, c'est que...
C'est autobiographique, c'est ça qui est terrible.
Non, je ne suis pas tombée dans ce piège-là. Et du coup, ce qui est assez terrible, en fait, c'est qu'en fermant le livre, c'est comme si vous étiez attaché... Parce qu'alors, quand même, il y a une série de... Enfin, vous l'avez lu, hein, comme moi. Et il y a une série de personnages, c'est juste horrible, en fait. Xavier, c'était déjà un con, mais alors c'est un surcon, à cause du filtre politique. La nana, là, Émilie, dans le groupe de rock, elle est juste devenue... qui faisait partie du groupe de rock, elle s'est juste... pour des raisons que vous allez expliquer, hein, enfin, elle s'est mutilée presque parce qu'elle n'était pas dans la case comme il faut de la famille, du couple, etc. Mais sauf qu'elle est devenue hystérique entre-temps et on en passe comme ça. Et finalement, même s'ils sont vraiment hideux quelque part, la position de alors, le personnage central n'est pas le narrateur et c'est important en fait. Mais la position, c'est de dire, regardez-les. Mais mince, maintenant que moi aussi j'ai pris de l'âge, je les comprends.
C'est ça. Et c'est vrai qu'il se passe un truc. Quand on a 20 ans, je pense que ça arrive à peu près à tout le monde. On n'arrive quand même pas, on le sait, et en même temps, on n'arrive pas à croire que ça va nous arriver. C'est comme si une pensée magique nous disait dans un coin, mais moi, je vais me faufiler et ça va se passer. Et puis ça nous arrive à tous quand même. Et c'est vrai que dans le rock, comme on a, je pense, c'était vraiment une culture de la jeunesse, avec un très fort accent mis sur la jeunesse. Puis un jour, tu l'as perdu, tu es toujours dans le rock, et qu'est-ce que tu es devenu ? C'est quelque chose auquel on n'était pas spécialement pas préparé, mais je pense qu'on est spécialement sensible à ce qu'on est devenu, parce que comme tous les vieux nous le disaient, ça passe vite. Et une fois qu'on est vieux, on se dit, ouais, c'est vrai, c'est exactement ça, ça passe vite. Et c'est vraiment. Quasiment, il y a une nouvelle de Buzzati comme ça, c'est des gamins qui courent après des vieux pour les attaquer dans des bois, et puis à un moment donné, il y a un gamin qui se perd, c'est une nouvelle très courte, et puis il se perd 2 minutes, et d'un coup, c'est le vieux, il y a d'autres gamins qui lui courent après. Et c'est exactement ça, le roman, quoi. C'est des gens qui se retrouvent à la place des gens qui méprisaient en 2 secondes, quoi.
Au tout début du roman, vous nous prévenez, vous dites « La vie se joue souvent en 2 manches. Dans un premier temps, elle t'endort en te faisant croire que tu gères. Et sur la deuxième partie, quand elle te voit détendue et désarmée, elle repasse les plats et te défonce. »
On peut le voir comme ça. Il n'y a pas que comme ça, mais on peut le voir comme ça, quoi.
Mais du coup, c'est cette angoisse-là, parce que là, le problème, c'est que autant à 20 ans, on pouvait se dire, OK, on va y échapper. Mais autant là, y a, du coup, ça fait quand même un pas. Et c'est quelque chose, c'était une angoisse qui vous tenait parmi.
Ça ne me tenait pas du tout comme angoisse avant, c'est une angoisse qui me tient maintenant.
Ouais. Plutôt. C'est une nouvelle angoisse.
Et le plus, je pense pareil, c'est quelque chose qui n'est pas. Il n'y a pas que à moi que ça fait ça, c'est que c'est chez les autres que ça nous inquiète le plus. Parce qu'on a l'impression que oh, ça va à peu près, puis on voit les autres, on se dit pas du tout en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très exploité ou travaillé dans la littérature, parce que c'est vrai que c'est un thème incroyable, vieillir soi-même. Quoi. Alors après, on sait qu'on va mourir en plus, donc c'est tout un truc. Quand c'est ton histoire à toi, ça reste toujours une surprise. Et je pense quand t'as pas d'enfant encore plus, parce qu'il y a quelque chose encore plus injuste, quoi.
Du coup, se pose la question de la relève, quand même. Et alors, dans ce tome-là, la jeune femme, la plus jeune femme que vous nous présentez, c'est Aïcha. Alors Aïcha, pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu le roman, en fait, elle est la fille d'un universitaire, d'un prof universitaire particulière, alors qui est d'origine maghrébine, mais qui est particulièrement laïque. Et son Aïcha à lui, alors la maman elle a disparu, mais c'était une star du porno quand même. Bon, il y a de quoi un peu être perturbé. Mais en tout cas, son Aïcha à lui, en fait, la seule façon qu'elle trouve de s'ériger contre, chose qui est le stigmate de l'adolescence, c'est de mettre le voile. Et comme si il y a 20 ans elle avait fait du porno.
Ouais. Mais elle ne s'érige pas contre son père du tout. Hein. Elle s'érige dans sa tête à elle contre ce que la France a fait à son père, dans sa tête.
Mmh, oui.
Et dans, elle a l'impression que si son père, alors que son père est comme tous les autres personnages, bon, bah, il a fait ce qu'il a pu, elle, elle a la sensation que l'humiliation supplémentaire, elle vient de ce que son père a cru que c'était possible de, d'être un Français comme les autres et qu'il a été humilié là-dedans. Lui, il ne se sent pas humilié. Elle, elle le voit comme quelqu'un d'humilié.
Oui, sauf que, la communication, pas... elle est plus possible entre tous les deux quand même.
Sauf que lui, il le prend mal,
oui,
cette histoire de
ça,
vol. Il ne le vit
ça,
pas bien
pas
du tout. Mais elle, dans. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai le tome 2, donc je ne sais plus si c'est dans le tome 1 ou tome 2 que. Mais elle, ce n'est pas contre lui, c'est pas contre lui en tout cas qu'elle s'élève. C'est pas une façon de s'opposer au père comme nous. Et je crois même, j'ai jamais cru moi non plus qu'on devenait punk par exemple pour s'opposer aux parents non plus. C'est plus complexe.
Mm-hmm.
On peut aussi s'opposer à l'idée qu'on se fait de ce que nos parents ont vécu. Elle, dans son, en tout cas, c'est son cas. Elle a la sensation que la France a humilié son père justement parce qu'il a fait l'effort de vouloir être un Français et que la France, dans sa tête à elle, a toujours quand même continué à le traiter comme un arabe, comme elle a continué à traiter comme des arabes tous ceux qui ont fait l'effort. Et c'est là-dedans qu'elle, parce qu'au moment où elle prend le voile, elle n'est pas encore consciente de ce que sa mère qui a disparu et personne ne lui a dit était une fille du X.
Alors assurément, vous continuez à vous passionner, enfin ça fait 22 ans que ça dure, mais pour, enfin votre matériau brut, ça reste l'humain. Et du coup, ces trois grands filtres, c'est ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire le couple et la famille d'un côté, ensuite la posture sociale, c'est-à-dire les choix politiques, et puis quel métier on fait, comment, est-ce qu'on a de l'argent, est-ce qu'on en a pas, etc., etc. Est-ce qu'on a beaucoup d'argent, parce qu'il y a aussi des personnages comme ça dans votre livre. Et enfin, le troisième, c'est l'identité sexuelle. Ça veut dire que c'était ces trois grands thèmes-là sur l'humain qui vous intéressaient.
C'est pas conscient. Pareil, je me mets pas devant un chapitre en me disant cette fois-ci je vais traiter ça, ça et ça, mais c'est vrai que si je m'intéresse à comment je regarde les choses, c'est trois axes qui m'intéressent énormément. Quel est ton patrimoine en gros, quelle est ta sexualité ou en tout cas qu'est-ce que tu en dis, et quel est ton rapport à l'amour ou à la famille, selon, ou les deux, parce que des fois ça va ensemble. Et c'est vrai que c'est ce que je regarde beaucoup. Je regarde pas que ça, mais ça m'intéresse chez les gens.
C'est ce que vous observez chez les autres directement, dans votre entourage.
Si tu réfléchis, oui. I stand firm for a soil. Little rock and falls and they juicy. Dress me up in stitsy. Hell is round the corner where I shelter. It's something a schism. The living out of style. If you believe or deceive, common sense as shouldn't be seen. Let me take you down the corridors of my life. And when you walk to, you walk to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor. I trust to judge you from my.
Alors il y a une intrigue dans ce roman-là, c'est Alex Bleach dont on parlait au début, en fait, quand il est mort, ok. Et donc chez Vernon Subutex, en fait, il y a des enregistrements comme s'il avait fait une interview tout seul, voilà. Et en fait, évidemment, ces enregistrements vont se mettre à intéresser le monde entier. Et donc il va y avoir une intrigue qui va se nouer et donc se dénouer dans les prochains tomes, j'imagine. Et en même temps, donc il y a ce côté un peu enquête. Et en même temps, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tradition du roman noir, je dirais, dans le sens où on est sur une radioscopie de notre société qui est juste hallucinante. C'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, c'était tellement quasi exhaustif que je me suis demandé comment vous procédiez. C'est-à-dire que y en a à toutes les pages, quoi. Enfin, Yahoo, la page d'accueil de Yahoo, c'est juste. L'Apple Store, c'est juste. Les cigarettes électroniques, là, c'est juste. Enfin, tout y passe. Comment vous travaillez, en fait ? Est-ce que vous prenez des notes en permanence ?
Non, mais je fais confiance à... ce dont je me souviens, je me dis, c'est à peu près ce que je saurais traiter, justement. Je ne prends pas de notes, justement, parce que je me dis, ce qui va me rester à la fin de la journée, et donc le lendemain, quand je vais commencer à écrire, c'est à peu près ce que je vais savoir traiter et assembler, quoi. Et c'est vrai que, par contre, c'est un roman qui est particulièrement comme un collage de plein d'impressions, de métro, de terrasse, de dîner, et ramener à chaque fois des petits éléments, essayer de faire en sorte qu'à la fin ça fasse un chapitre et au bout de tous les chapitres ensemble, un roman, quoi. Et par contre, je ne pense pas que ce soit exhaustif parce que c'est infini ce qu'on a regardé à dire. Et de la même façon, je pense que ça vient aussi de cette histoire d'être tout le temps sur Internet et tout le temps être en train. Parce que c'est quelque chose de très bribe, Internet. On est tout le temps en train de prendre des bribes. Et là, c'est l'accumulation de toutes ces bribes. C'est comme le compte rendu d'une journée d'Internet, quoi, à la fin. quelque chose comme ça, quoi.
Il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé, qui pourtant en est un dans votre roman, en fait, c'est Paris. À un moment, en fait, il y a quelque chose de tout à fait improbable, mais tout à fait, enfin, c'est là où ça ressemble très fort à une série aussi. Il y a un personnage dont on va parler après qui s'appelle La Hyène et qu'on retrouve d'ailleurs depuis. Vous l'avez créé dans l'Apocalypse bébé. Et elle part avec Aïcha. Alors ça, c'est tout à fait improbable, en fait, à Barcelone, en fait. Et c'est le père de Aïcha qui demande ça, qui dit j'en peux plus, je sais plus quoi faire avec mon adolescente voilée. Prends-la et puis essaye de comprendre toi. Il lui demande quelque chose de plus précis derrière, mais on va pas tout dévoiler ici. Et Barcelone est en pleine crise sociale qu'on lui connaît, en fait, et pourtant, les choses ont l'air plus authentiques qu'à Paris, les choses ont l'air plus douces qu'à Paris, et c'est même le seul moment du livre où il se passe quelque chose de très gratuit entre deux personnages, de très doux, en fait. Cette Hyène, elle se fait maman l'espace de quelques temps, comme ça, et c'est dans Barcelone, en fait.
C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup frappé. Je suis resté 3-4 ans à Barcelone et ensuite je suis revenu à Paris. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé Vernon Subutex en faisant beaucoup de. La plupart du livre est écrit à Barcelone. Et c'est vrai que c'était frappant de voir un pays qui est réellement frappé de plein fouet par la crise, même si Barcelone est épargné quand même. Ils sont frappés beaucoup plus durement que nous par la crise de 2008. Et de voir que là-bas, ils sont moins déprimés et qu'on sent beaucoup moins de tension dehors et beaucoup plus de volonté de comprendre, de volonté d'inventer d'autres façons, de quelque chose de beaucoup plus optimiste, en fait, enfin moi qui me paraît beaucoup moins morbide que ce qu'on vit en France. C'est vrai que ça m'a frappé, parce que je me dis, c'est déjà pourquoi est-ce que juste une frontière et une langue ou des langues peuvent à ce point changer? Comment est-ce que c'est possible qu'on ait à ce point pas les mêmes analyses des choses, les mêmes informations, les mêmes sensations, du coup, parce que pas la même propagande et pas les mêmes réactions, même en tant que gens. Pourquoi chez eux la crise de 2008 provoque le mouvement du Kinsey-Aimé, qui ensuite va provoquer mais une constellation de partis d'extrême gauche qui vraiment réfléchissent à comment ça s'est passé, comment est-ce que ça peut se passer autrement. Et chez nous, c'est la montée du FN, il y a quelque chose qui me fascine, quoi, quelque part. Et c'est vrai que c'est ma sensation quand je retourne à Barcelone, de retourner vers quelque chose, pas seulement parce qu'il fait beau, mais de plus doux en général dans les discussions, alors que les gens dans leur vie de tous les jours ont ramassé là de façon
concrète, ouais.
De façon beaucoup plus concrète, et des gens qui travaillent justement dans les universités, dans les musées, dans les librairies, dans des gens qui étaient dans une classe moyenne privilégiée par rapport au reste de la population. Il y a très peu de temps, ça a dégringolé en 2 ans, et quand même ils sont moins pessimistes que nous, et ça me travaille, ça m'intéresse.
Bon, et puis quand Vernon tombe dans la rue, en fait, qui devient SDF, on tombe, nous, sur ce nouveau personnage qui est Olga, qui est SDF aussi, qui est une espèce d'armoire à glace comme ça, qui est un personnage complètement incroyable. Et en fait, à partir du moment où le livre bascule comme ça, j'ai fini par me dire, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire que l'État français a quelque part intérêt à laisser comme ça ces gens dans la rue pour tous les jours nous dire de façon très judéo-chrétienne, fais attention, sinon c'est à toi?
Moi, je le crois. Je pense qu'on a les moyens structurels, on a les moyens d'empêcher que les gens passent leur journée et leur nuit dehors. C'est pas quelque chose c'est pas inenvisageable. Je pense qu'il y a quelque chose de... Alors, je pense pas que les gens s'assoient le matin en se frottant les mains pour dire ces enculés, on va les tenir comme ça, mais c'est comme un inconscient collectif. Oui, en laissant les gens dehors comme ils les laissent, ou comme on les laisse tous, ce qu'on nous dit à nous tous, c'est attention à ta dette, paye bien ta dette, va bien au boulot, demande pas trop, paye ce qu'on te demande de payer, parce que sinon on regarde dans quelle situation. Alors qu'en fait, parce que même le fait d'une ville pareille comme Paris, elle est spécialement violente, parce que tout l'ameublement urbain est modifié pour éviter que les SDF puissent avoir une place. C'est un des trucs, par exemple, qui est différent avec Barcelone, où on laisse les bancs, et donc les gens dorment sur les bancs, se réveillent sur les bancs, d'ailleurs finalement ça pose aucun problème. Et dans Paris, le fait qu'on retire les bancs, qu'on retire tous les endroits où on peut s'asseoir, à part les parcs, mais même les parcs, on se débrouille pour éviter qu'ils puissent dormir à l'intérieur, enfin cette espèce de politique d'être sûr qu'ils soient le moins bien possible, mais sans leur donner aucun autre espace, oui, je crois que ça correspond à quelque chose qui est de nous faire obéir encore mieux, et ça marche, au sens où je pense qu'on est beaucoup à avoir peur de se retrouver dehors.
Alors, et ce personnage de La Hyène, alors, qu'on retrouve, ça veut dire quoi, Virginie Despentes, quand on retrouve un personnage comme ça après, ça veut dire que vous n'en avez pas fini avec ce personnage-là, ou ça veut dire que vous avez un attachement particulier à elle?
J'avais un attachement particulier à elle, je ne m'étais jamais permis de le faire, et là je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne le fais jamais? Des personnages qui continuent à me trotter en tête et avec qui j'ai envie de retravailler parce que ça m'amuse, ou parce que j'ai encore envie de... pourquoi ne pas les reconvoquer? C'est vrai que La Hyène, c'est vraiment la lesbienne, c'est la lesbienne Clint Eastwood. C'est l'espèce de... Et elle est cool pour moi qui suis une fille super timide, super... Bon, bah, d'un coup, prendre la lesbienne Clint Eastwood, ça j'aime bien pour mener une histoire, quoi. En plus, elle a une intuition incroyable, donc elle peut démêler des situations pour moi romancière vachement bien, parce que, clac, elle sait comment il faut faire. Et j'avais envie de la reconvoquer, ouais. Et j'avais... Et je m'étais jamais permis de le faire, en fait, rien ne l'interdit, c'est ce que je me suis dit d'un coup, quoi.
Alors, pour un grand magazine télévision, vous dites « Il me semble d'un auteur tel que moi qu'on n'attend pas la perfection de la phrase, mais plutôt quelque chose lié au souffle, à l'énergie. » C'est pas une façon de se dédouaner, ça, quand même ?
De se dédouaner, non, ouais. Parce que je pense, je pense qu'on n'attend pas...
Enfin, on donne pas le Renaudot que pour un souffle, quoi.
On donne le Renaudot, on sait pas bien pourquoi. On est content de l'avoir, on est très content de l'avoir, mais je peux pas... et un souffle, c'est beaucoup. Alors, en tant que lecteur, là, je parle plus qu'en tant qu'auteur, si un auteur peut me prendre dans son rythme et dans son souffle, et, bah, je suis déjà pas mécontente, quoi.
Oui, à contrario, on trouve quand même des phrases, toutes qui jalonnent le livre, enfin, toutes les pages, des phrases comme les femmes aiment les hommes qui aiment le rock, ils sont juste assez sales pour les affoler, tout en s'encordant assez bien avec le confort bourgeois. Je vous passe celle sur les Roms et les intellos de gauche. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, c'est une phrase. Par essence, c'est une phrase. Hein.
Ouais, mais c'est pas une belle phrase comme un monument.
Non, parce qu'il
y a une tradition aussi de la littérature française à laquelle j'appartiens pas, qui est de la belle phrase. Et c'est pas la mienne. Et, okay. Et ça, c'est sans jugement ou mépris ou au contraire. Mais simplement, c'est pas la mienne. Moi, je fais pas des gens de façon péjorative. Lui appelle ça des phrases attrape-touristes. Et c'est vrai que c'est pas ce que j'essaie de faire. J'essaie pas de faire des phrases où les gens s'arrêtent et waouh, je m'en fous, quoi. Je pense à d'autres auteurs et c'est pas ce que je fais.
Alors justement, ce souffle et cette énergie, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est ce qui tient votre œuvre. Il y a pas de problème là-dessus. Mais donc dont la phrase que je viens de lire, elle se fait par exemple l'étendard. Mais ça vous permet de dire ce que vous pouvez pas dire de toute façon quand vous n'êtes pas de Virginie Despentes.
Ce que je dis dans le livre là,
toutes ces phrases écrites qui tombent comme des guillotines là.
Bah, ça me permet d'essayer de dire quelque chose quand même. Moi.
Oui, oui.
Après, il y en a pas mal. Il y a quand même pas mal de moments où je me fais plaisir en écrivant vraiment des saloperies dans celui-ci. C'est réellement pas mon. Ça passe par mon cerveau et c'est moi qui le déroule. Mais quand je suis toute seule moi dans ma tête, c'est effectivement pas comme ça que je réfléchis. Et je le dis pas pour me dédouaner parce que j'ai déjà quand même. Il m'arrive de dire des grosses conneries, donc je l'assume. Mais là, effectivement, j'essaie de me demander, déjà, j'essaie de travailler avec des phrases que j'entends et qui ne sont pas les miennes. Et j'essaie réellement plusieurs fois de me demander, et comment, dans ta tête à toi, comment ça se passe.
Alors, avant de laisser la parole au public, puisque Nathalie me fait signe, y a une scène assez cathartique qui pourtant intervient au début du livre. En fait, c'est quand les huissiers débarquent, en fait, et que Vernon Subutex donc, est expulsé de chez lui. Il doit remplir un sac. Voilà, enfin, voilà, il fait, c'est le dernier geste qui lui vient en tête. Il remplit un sac. Dedans, il met Bukowski, Lydia Lunch, son iPod. Est-ce que ça, c'est pas votre sac à vous ?
Ah, bah, Bukowski, Lydia Lunch, si. C'est probablement deux... C'est comme des amis... Bon, pour Lydia, c'est une amie-amie, mais même avant qu'on se rencontre, c'est comme une... C'est une présence forte, et c'est à peu près... Ouais, c'est des... Et Bukowski, c'est vraiment l'auteur que je lis le plus et que je relis le plus, et qui est plus comme une présence, quoi. Et depuis le plus longtemps. Et... Oui, non, je me fais plaisir. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que je mettrais dans mon sac si j'étais expulsée demain ? C'est sympa.
Voilà, Rock'n'Page, c'est fini. Merci à Bruno qui a doublement réalisé la technique de cette émission, une fois sur la rencontre littéraire elle-même, et puis en studio aussi. Prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine avec un Rock'n'Page plus traditionnel cette fois. Allez, à tout bientôt.